Chapitre 5, Teodora Luigi. Elle nous suivit jusque dans l'appartement des Rouletabille où nous trouvâmes Ivana également inquiète. J'observais bien la femme de mon amie sans en avoir l'air. Certes, elle n'était point dans cet état de fièvre qui faisait trembler Thérèse, mais sous des dehors qui affectaient le calme, je démêlais facilement un trouble que je ne lui avais point vu les journées précédentes. Que le même tourment posséda la femme de Roman Roublanger et la femme de Rouletabille au regard du professeur et de ses frasques amoureuses, je ne pus m'empêcher de trouver la chose assez curieuse en dépit de tout ce que m'avait raconté mon ami. Rouletabille avertit ces dames que je savais tout et prit sur lui d'annoncer que j'entrais dans le complot. Il souriait et parlait d'un air dégagé qui me faisait de la peine à moi qui n'ignorais plus l'anxiété de son cœur. Ne plaisante pas, Zo, pria Ivana d'une voix grave. Regarde notre pauvre Thérèse. Le fait est que notre pauvre Thérèse, tombée au fond d'une bergère, nous montrait une bien pauvre figure. « Elle est ici et il le sait, » gémit-elle. « Et depuis qu'il le sait, il lui a été impossible de travailler. C'est une feuille du pays qui lui a appris l'arrivée de Teodora Luigi à Deauville. Il est allé, après déjeuner, s'enfermer dans son cabinet dont il nous a consigné la porte, à Ivana et à moi, ses collaboratrices quotidiennes. Et quand il est sorti à 5 heures, j'ai pu constater, en examinant son bureau, ses papiers, et qu'il n'avait pas écrit une ligne. En revanche, il a consumé une boîte d'égyptienne dont j'ai retrouvé les bouts brûlés partout, sur le tapis, sous les meubles. À 5 heures, il a commandé qu'on lui sella son cheval et il est parti seul. Je ne sais où, sans plus se préoccuper de nous que si nous n'existions plus. N'est-ce pas, Ivana ? Ivana, que je ne quittais pas des yeux, ne répondit rien et haussa tristement les épaules, comme si elle compatissait à une peine pour laquelle elle ne pouvait plus rien. Et cependant, je la trouvais un peu pâle. Et Thérèse continuait. Quand il est rentré tout à l'heure, il nous a dit de nous habiller, que nous irions ce soir au casino, il doit y avoir une fête éclatante dont on parle depuis 8 jours, et à laquelle il était entendu que nous ne mettrions point les pieds à cause de la cohue. Mais voilà, il a changé d'avis, Teodora Luigi sera. Oh, je m'attendais bien à ce qu'elle le poursuivît jusqu'ici, quoique mes renseignements me donnaient quelque espérance. La présence nécessaire à Paris d'Henri II d'Albany et la jalousie du prince qui n'admet point qu'elle le quitte à l'instant. « Eh bien, mais voilà une garantie, » fis-je. « Vous ne connaissez point les femmes, » éclata Thérèse. « Hélas, si, madame. Mon pauvre ami, oh non, je vous demande pardon. Vous avez été bien malheureux, vous aussi, vous me comprendrez. » C'est vrai qu'il y a des femmes abominables et elles disent qu'elles aiment. Elles appellent ça de l'amour. Et elles apportent avec elles la mort. Elles la traînent dans les plis de leurs jupes. Et ce sont des femmes fatales auxquelles vous ne résistez pas, vous les hommes, tandis que vous détournez le visage d'un honnête sourire. Ma pauvre Ivana, je n'avais plus confiance qu'en toi, mais qu'allons-nous devenir ? « Mon Dieu, fis-je, je comprends votre douleur, madame, mais peut-être n'y a-t-il point lieu de se livrer à un si grand désespoir. Henri II est jaloux, Henri II va quitter bientôt la France. Le mal ne pourra être que passager, même si les deux personnages qui vous préoccupent parviennent à se joindre. Ce ne sera pas pour longtemps. Remarquez que je ne vous parlerai pas ainsi, si je ne vous connaissais pas suffisamment pour savoir que votre amour est au-dessus des jalousies vulgaires. Mais je m'arrêtais. Thérèse pleurait. Ivana s'en fut l'embrasser, et Rouletabille et moi-même nous lui offrîmes nos consolations. Tout en continuant de pleurer, elle tira un papier de sa poche. « Lisez ceci, » fit-elle dans ses larmes, « alors vous comprendrez. C'est une lettre qu'un chasseur du Royal a apportée tout à l'heure pour Roland. J'avais pris mes précautions avec mon concierge. Voilà où j'en suis descendu. » Nous lûmes. Mon cher Roland, j'ai pu l'amener ici. J'ai eu à cela toutes les peines du monde. Quelqu'un l'a mis au courant de notre belle aventure. Il est horriblement jaloux. Il m'ennuie. Je ne pense qu'à toi, qu'à nos amours. Ton esprit, tes sens, ton imagination m'ont fait gravir des sommets que je ne trouverai jamais qu'avec toi. Le reste n'est que ténèbres. Le doux poison sans toi est plat. Rappelle-toi, rappelle-toi, oh, si tu voulais. Je ne te demande pas grand-chose. Je sais que ta vie appartient à d'autres, à nous des autres, mais laisse reposer ton génie 2 mois, seulement 2 mois. Je ne te demande que 2 mois de ta vie. Nous abandonnerons tout pour être l'un à l'autre, loin du monde entier, 2 mois. Fuyons, veux-tu ? Je serai ce soir au casino. T'adora. Madame Boulanger remit la lettre dans sa poche en éclatant en sanglots. « Vous voyez, nous savons ce que c'est que ces 2 mois et son poison. Oh, si elle me le reprend, c'est fini. Elle me le tuera. Sans cela, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, elle ou une autre, tout m'est égal à moi, pourvu qu'il vive et qu'il vive. » Ma foi, nous pleurions tous. Tout à coup, Ivana se redressa et d'un air déterminé déclara que la partie n'était pas perdue et qu'après tout, cette Théodora Luigi n'était peut-être point invincible. Elle releva la tête et elle releva aussi Thérèse et lui dit en l'embrassant « Allons, du courage et fais-moi belle, bien belle. » Ses yeux brillaient. Le sang, maintenant, affluait à ses joues tout à l'heure si pâles. Une étrange confiance en elle émanait de tout son être qui semblait rayonner. Nous fûmes frappés de sa subite beauté. Je me retournai vers Rouletabille qui se tenait muet et pâle dans un coin. Les 2 femmes nous mirent à la porte et nous allâmes, Rouletabille et moi, nous habiller, chacun dans notre chambre, sans plus nous dire un mot. Tout cela devenait bien grave, et j'en avais le frisson. Je fus le premier descendu au salon. Roland Boulanger survint. Il paraissait plein d'entrain, ses yeux brillaient d'un éclat nouveau. Il était vraiment beau, d'une beauté mâle, intelligente et pleine d'une forte séduction. Je l'enviais. Celui-là faisait souffrir les femmes, il nous vengeait. Certes, il faisait des victimes innocentes, mais est-ce que le plus souvent nous ne sommes pas des victimes innocentes, nous aussi ? Enfin, je parle pour moi. Ivana apparut, suivie de Madame Boulanger. En vérité, elle était adorable. Je dois dire de suite que sa toilette me ne rappelait en rien celle que j'avais louée précédemment pour sa décence et son élégante modestie. Tout de même, par ses temps de décolletage à outrance, elle ne choquait point, tout en ne laissant pas grand-chose à deviner d'un buste charmant, ferme et délicat. Des bretelles de rose soutenaient un fourreau de gaze d'argent et se prolongeait jusqu'au bas de la robe qui moulait des formes jeunes au rythme parfait. Dieu, que vous êtes jolie ! S'éclama Roland Boulanger en faisant quelques pas au-devant d'elle et en lui baisant la main. N'est-ce pas ? Appuya Thérèse, qui paraissait ravi et qui faisait valoir Ivana avec une émotion égale à celle de l'artiste qui exhibe l'œuvre sortie de ses mains créatrices. « Mais compliments !» prononça Rouletabille derrière nous. « Oh, je ne te connaissais pas cette robe, Ivana !»« C'est une surprise que nous avons voulu te faire, Thérèse et moi, » expliqua Ivana avec un calme sourire. « Nous l'avons commandée ensemble. Oh, je suis heureuse qu'elle te plaise !» On passa à table, alors on s'aperçut que Madame Boulanger ne s'était point habillée pour la soirée. Son mari s'en étonna. Elle prétexta une grande fatigue. Roland n'insista point, la pensait à toute autre chose qu'à sa femme. Il se montra d'une jeunesse étonnante, séduisant, beau diseur, un rien mystificateur, avec une facilité d'improvisation éblouissante. Ivana lui donnait coquettement la réplique en l'admirant ostensiblement. Tout en elle lui disait « Je t'admire ». Ses regards, son geste penché, son attention dévote disaient cela et bien autre chose. Et si cette femme n'aimait pas cet homme, il y avait là un mensonge sacré, et si elle l'aimait à l'abri d'une si prodigieuse comédie, mais c'était le démon. Madame Boulanger respirait une roseté qui semblait contenir de la tristesse. Rouletabille, silencieux, avait une figure contractée de passion. Il souffrait, oh, il souffrait, le malheureux. Tout à coup, Ivana s'en aperçut et ne le dit plus rien. Elle avait pâli, et l'autre parlait toujours. Jamais je n'avais eu une telle preuve vivante de l'amour d'Ivana pour son mari. Elle était triste, elle aussi, maintenant. « Mon Dieu !» me glissa Thérèse, « si elle continue à faire cette tête-là, tout est perdu !» Rouletabille entendit-il cette phrase ? Il changea immédiatement d'attitude, se montra à son tour plein d'entrain et regardant sa femme, sembla lui demander pardon. Oh, il était bien brave ou bien lâche auprès de la femme aimée. Les mots ne signifient plus rien, rien que ceci. Fais ce que tu veux, je t'aime et j'ai confiance en toi. Elle le remercia d'un regard chargé d'amour et recommença son terrible jeu. Quand nous nous levâmes de table, Madame Boulanger dit à mi-voix à Ivana en rectifiant un pli de sa toilette « Je te remercie, ma chérie. » On ne s'attarda point, Roland savait ce qu'il voulait. Il voulait être le plus tôt possible au casino. Il pensait sans doute que Théodora avait dû y dîner. Mais ceci ne l'empêcha point dans l'auto de serrer tendrement la main d'Ivana pendant que Rouletabille descendait de voiture et que je ramassais une écharpe. Voilà une petite partie de cache-cache qui finira par des coups de revolver, pensais-je. Hélas, je ne croyais pas si bien penser. Nous parcourûmes les salles de jeu. Pas de Theodora Luigi, pas de prince d'Albany. Rouletabille, comme il lui arrivait souvent, avait disparu sans rien dire. Roland avait l'air déçu. Ivana se mit à rire. « Elle n'est pas là, » lui dit-elle en le regardant bien en face. « Alors voulez-vous que l'on rentre ?» Il resta quelque temps sans répondre, puis il lui dit, très grave, « Vous vous moquez de moi et vous avez tort. On ne doit jamais rire quand on parle de Théodora Luigi. » Mais il l'avait prise sous le bras et je n'entendis point le reste de l'entretien. Il était facile d'en deviner le sens, cependant. Ce qu'il disait là n'était point maladroit. En tout cas, c'était une riche entrée en matière pour décider sa nouvelle conquête. Il lui avouait qu'il était encore sous l'empire néfaste de la courtisane, et la conclusion s'imposait. Il y a un beau temps que je ne penserai plus à elle, si quelqu'un qui n'est pas loin de moi l'avait bien voulu. La conversation dura-t-elle longtemps? Qu'était-il devenu? En les cherchant, je trouvai Rouletabille qui était en train de jouer. Ça, c'était bien la première fois. Le malheureux gagnait tout ce qu'il voulait. Il m'aperçut et eut un singulier sourire en me montrant les billets accumulés devant lui. Il fit un gros banco et gagna encore. Il paraissait exaspéré. Son geste semblait dire « Mais il n'y a donc pas moyen de perdre ici !» Le petit Ramel de Dramatica, qui ne jouait pas parce qu'il ne lui restait plus rien des 25 000 francs qu'il avait gagnés au gros Berwick chez Léontine, fit tout haut. Si ça ne te gêne pas, t'en seras bientôt débarrassé, va. Mais le sabot arrivé devant Rouletabille lui donna un démenti. Mon ami poussa sur le tapis tout ce qu'il avait devant lui. Le croupier compta et le coup fut tenu. Rouletabille gagna. C'était une main. Après avoir passé trois coups, il se leva comiquement furieux. Il faut qu'aux drames les plus farouches se mêle toujours un peu de vaudeville. À mesure où le tabi se sentait ridicule, il prit à poignée ses billets, se leva, me dit « Sortons !» Et sur le seuil de la salle de jeu, il donna tout à un petit chasseur nègre que tout le monde appelait Chocolat et qui, ne sachant ce que cela voulait dire, restait ahuri, les bras en l'air, transformé en candélabre. « Je ne t'ai jamais donné de pourboire, » dit Rouletabille, et il passa. Je le suivis sur les terrasses, il étouffait. « Aujourd'hui, assez, » gronda-t-il, « il faut que cette histoire cesse. Il arrivera ce qui arrivera, Roland crèvera, la tuberculose des poules restera inexplicable. De tout cela, après tout, je m'en fiche. » Ivana traitera mon manque de confiance à l'égal d'une insulte. Mais la connaissant comme je la connais, il en résultera un drame affreux, elle m'en voudra à mort pendant un an, là où une autre aurait tout oublié au bout de 15 jours, mais tant pis. C'est inouï à la fin. Il n'y a que les femmes pour inventer un pareil imbroglio, où nous sommes tous ridicules jusqu'au moment où nous nous casserons la gueule. Alors, les plus raisonnables d'entre elles ont une fêlure. « Vois ça d'ici. Ivana, eh bien, mais Ivana est comme toutes les autres, dès qu'il s'agit d'user de coquetterie pour jouer un bon tour à un amoureux. C'est cela qu'il a tenté. Retenir un homme fou d'une autre femme avec un sourire, quel triomphe et comme c'est amusant. Et là-dessus, on nous parle de sauver un cerveau, des intérêts supérieurs de la science. Oh, la bonne blague! Je lui dirai à Ivana, je lui dirai, pas plus tard que ce soir, son jeu, ce petit jeu essentiellement féminin qui consiste à empaumer un homme avec la certitude de ne rien lui donner. Mais ce jeu-là est honteux, de quelque nom qu'on le décore. Et puis, ne rien lui donner, faudrait voir. Elle appelle ça rien, elle. Cette promiscuité de chaque jour, cette main qu'elle lui a abandonnée tout à l'heure dans l'auto. Car j'ai vu, je vois tout. Et ce sourire quand elle le regarde. Ah, ce sourire. Et lui et le sien de sourire. Oh non, zut, et Nini, c'est fini. Il n'est que temps, fis-je. Quoi, il n'est que temps? Que veux-tu dire? Alors tu t'imagines que parce qu'elle lui a laissé prendre ses mains, Elle n'a plus rien à lui refuser. Mais tu es empaillé, toi aussi, comme ami consolateur. Assez, Rouletabille, moi aussi j'en ai assez, je rentre. Il me prit le bras. Pardonne-moi, je suis écumant, mais ne pense pas une seconde que je crains quoi que ce soit de la faiblesse d'Ivana. Il ne s'agit pas de cela. Comprends-tu qu'il y a une chose que je ne puis supporter plus longtemps? C'est qu'un homme s'imagine qu'un jour ou l'autre il aura ma femme. Voilà, c'est simple. Bon, et maintenant allons les chercher. Nous les trouvâmes dans la salle du souper, dansant un tango. Je sentis Rouletabille frémissant à côté de moi. J'espère, lui dis-je, que tu sauras te contenir jusqu'à ce que nous soyons rentrés. Si tu es fermement résolu à avoir une explication avec Ivana, que ce soit de sang-froid et que Roland ne le soupçonne même pas. Au fond, ta femme n'use que de la liberté que tu lui as laissée. N'oublie pas que tu es un peu coupable dans tout ceci. Je te remercie, fit-il en me serrant la main. Comme nous passions près du couple, Roland, d'un signe, nous désigna la table où nous devions souper, et nous nous assîmes. Je trouvais ce tango un peu long. Des gouttes de sueur perlaient au front de Rouletabille. Si chaste que puisse être dansée cette danse, Ivana la dansait comme une jeune fille. Elle a des frôlements d'une lenteur qui apparaissent plus voluptueux que la valse la plus enivrante. Roland et Ivana étaient le point de mire de tous les yeux. Les danseurs de tango étaient rares, ou du moins les autres s'étaient effacés devant le succès du couple. Le nom de Roland Boulanger était sur toutes les lèvres, et de table en table, on se demandait « Mais avec qui danse-t-il ?» « Avec ma femme, » finit par répondre Rouletabille agacé. Quand ils vinrent s'asseoir, une rumeur d'admiration les suivit et on entendit quelques bravos. Ivana était toute rose. « Mes compliments, » fit Rouletabille, « quel succès !» À ce moment, chacun se retourna vers l'entrée à laquelle Roland Boulanger tournait le dos. « Oh, le prince Henri et la Théorora !» dit quelqu'un. Roland ne fut pas maître de son mouvement, il se retourna tout d'une pièce. Un groupe pénétrait dans la salle. En tête s'avançait Teodora Luigi, bavardant avec un jeune homme de la suite du prince. Puis venaient le prince et quelques autres personnes. Cette courtisane marchait comme une reine. On ne regarda plus qu'elle. Tout à l'heure, la grâce d'Ivana avait soulevé d'aimables murmures. Maintenant, c'était le silence, une muette admiration devant la beauté, la redoutable beauté. Elle était haute et droite dans le lourd brocart d'une robe d'un bleu glacial balafrée d'arabesques d'or. Le décolleté d'une audace merveilleuse était coupé par une riche broderie d'or et de rubis. Et l'or continuait à se mêler à la chair, à fusionner avec elle dans d'originales bretelles qui retenaient le peu d'étoffe constituant le corsage, si peu d'étoffe. La jambe était gantée de soie bleue, le pied monté sur un cothurne d'or à talons écarlates. L'une des chevilles était cerclée d'un anneau d'esclavage en forme de serpent qui tordait sa tête de diamant et ses yeux de rubis vers la hautaine majesté qui le traînait dans ses pas. Cette reine des sombres voluptés avait les yeux écartés, la bouche charnue, le nez droit, un visage long et immobile de biche, infiniment aristocratique. Ses cheveux tirés en arrière, découvrant un front de marbre, étaient emprisonnés dans une résille ponctuée de perles. Des perles partout s'égouttaient aux oreilles, sur sa poitrine, aux mailles de sa robe. Roland avait repris sa position première, mais tout en lui tournant le dos, il ne voyait plus que Théodora Ivana. Par là, à ce moment-là, dit une banalité sur le prince. Roland ne l'entendit pas. Rouletabille me montra la main du professeur qui tenait un couteau à fruits. Elle tremblait. La musique reprit un one step. Roland se releva, comme sortant d'un rêve, et prit la main d'Ivana. « Allons, » fit-il. Ivana se leva, heureuse de toute évidence, qu'il pensât à danser encore avec elle quand l'autre était là. Ils dansèrent donc, et Théodora aussi dansait avec le jeune attaché. Henri II d'Albany se leva, allant faire un tour avec un de ses compagnons dans la salle de jeu. C'était un homme d'une quarantaine d'années, déjà courbé par les excès, plus encore, pensais-je, que par les malheurs de sa patrie. On lui prêtait de grands désordres et une sombre neurasthénie. Je reportai mes yeux sur Roland Boulanger. Tout en dansant avec Ivana, à laquelle il ne parlait plus, il ne regardait que Théodora. Celle-ci, en passant près de lui, lui sourit et lui fit signe. Ivana se trouva soudain fatiguée et Roland la reconduisit à sa place. Elle était un peu pâle et se mordait la lèvre inférieure. Le professeur était resté debout et, tout à coup, Théodora, en passant près de lui, lâcha son danseur et tendit le bras vers lui. Il ne pouvait résister, il n'y pensa même pas. Et ils ne s'occupèrent plus de rien que d'eux-mêmes. Ils ne cessaient de bavarder en riant, tout en faisant machinalement les mouvements de cette danse sournoise. Quand la musique s'arrêta, Roland alla reconduire Théodora Luigi à sa table et revint auprès de nous. « Vous ne le direz pas à ma femme, nous dit-il, c'est inutile de lui faire de la peine. » Il paraissait radieux. « Nous ne le dirons surtout pas au prince Henri, » fit en riant Ivana. Justement, le prince revenait. « « Si vous êtes réellement fatigué, dit Roland Boulanger, nous pourrions rentrer. »« Ma foi, oui, répondit Ivana, nous n'avons plus rien à faire ici. » Et elle fut debout. Elle jeta encore un coup d'œil sur Théodora et dit « Évidemment. »« Évidemment quoi ?» interrogea Roland. « Rien, je pense à la tuberculose des poules. » Et comme Ivana, en disant cela, avait glissé son bras sous celui de Rouletabille, celui-ci ne fut pas le dernier à rire de la répartie de la jeune femme. À la villa, quand Roland se fut enfermé dans sa chambre, nous vîmes apparaître Thérèse. La malheureuse avait une figure. « Eh bien ?» interrogea-t-elle. « Eh bien, ma bonne amie, dit Ivana, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je t'assure. Tu peux demander à ces messieurs. Oh, mais j'y renonce. Il vaut mieux que tu la prennes tout de suite, tu le saurais demain. Il a dansé avec Théodora Luigi. Oh, il n'y a qu'une prompte fuite qui peut le sauver. Emporte-le tout de suite, partez de demain pour cette tournée en Bretagne. Vous m'abandonnez ? S'écria Thérèse, mais tu me quittes ? Mais oui, ton mari devient fou. Oh, il n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Madame Boulanger se leva sans ajouter un mot et nous quitta, stupide de douleur. Chapitre 6. Le drame. Le lendemain, je revis mon Rouletabille des beaux jours. Je retrouvais sa gaieté, sa joie de vivre, son insouciance. Il n'avait pas eu besoin de parler à Ivana. Par son attitude dernière, par sa propre initiative, sa résolution exprimée la veille d'abandonner la dangereuse partie que Thérèse lui avait fait jouer, Ivana avait rendu toute explication inutile. Et Rouletabille profitait particulièrement de la situation, c'est-à-dire que sa patience conjugale, sa confiance merveilleuse, était récompensée comme il n'en avait jamais point touché les limites. Je trouvais que le hasard faisait bien les choses. Sur la prière de Madame Boulanger, nous ne quittâmes point de suite les chaumes. Du reste, au départ aussi précipité, aurait été un peu ridicule pour Ivana, après les scènes du bal qui avait vu le triomphe de la Théodora. Et puis, il n'avait plus sa raison d'être. Roland Boulanger ne s'intéressait plus du tout à Ivana. Il était souvent absent. Le martyre de Thérèse faisait peine à voir. Elle n'avait même pas essayé de reparler du voyage en Bretagne. Elle savait que ce serait inutile. Une après-midi où Roland nous avait quittés de bonne heure, elle nous retint pour nous apprendre son calvaire. Roland et Théodora se revoyaient en secret dans une villa de Sainte-Adresse. Elle espionnait son mari, faisait suivre Théodora et même le prince. « Car le plus grand danger en ce moment est de ce côté, nous dit-elle. Je sais que le prince est affreusement jaloux, qu'il fait des scènes terribles à sa maîtresse et que le nom de Roland revient souvent entre eux, mon Dieu, s'il les surprenait jamais. Mais s'il est jaloux, comment fait-elle donc pour rejoindre Roland ? Interrompis-je. Mais le prince est souffrant, oui, il est tombé subitement malade. Oh, il était déjà suffisamment démoli. Mais par toutes les drogues qu'on lui fait prendre, qu'elle lui fait prendre, continua Thérèse, elle a dû lui faire goûter à quelque chose de nouveau pour qu'il se mette au lit et ne la gêne pas. Une femme comme celle-là est capable de tout. Bref, il ne quitte pas son appartement de Frascati, mais elle sort, elle. Ils ne sont donc plus à Deauville, je les croyais au Royal. C'est elle qui lui a fait quitter Deauville. Elle lui fait faire au fond tout ce qu'elle veut. Vous comprenez qu'ici elle était gênée. Elle ne pouvait faire un pas sans avoir sous les yeux sur elle. Enfin, Roland lui-même, par un reste de pudeur, a dû lui faire comprendre qu'ici... Eh bien ici, il y a moi. Ben, du moins, je l'espère. Oui, j'espère qu'il aura au moins pensé à moi pour s'éloigner de moi, mais m'en suis pas sûr. Mais revenons au prince. Hier, elle l'avait quitté à 3 heures. À 4 heures, le prince s'est fait habiller pour sortir, mais il a été pris d'une défaillance et on a dû le recoucher. Voilà dans quel état sera mon malheureux Roland avant 2 mois. Si on ne l'arrache pas aux griffes de cette gouge. Moi, je la tuerai, dit froidement Ivana. Je regardais la jeune femme. Elle avait son plus sombre regard dans un visage glacé. On eût dit qu'elle venait de la tuer vraiment et qu'elle fixait devant elle sa rivale abattue. La tuer ? S'écria Thérèse. Oh ! « Si vous croyez que je n'y ai pas pensé, eh bien alors, qu'est-ce qui t'arrête ?» reprit la voix morne d'Ivana. « Tu serais acquitté, n'est-ce pas, Saint-Clair ?»« Mon Dieu, oui, fis-je. Mais ça cause beaucoup d'ennui de tuer les gens, sans compter que je ne connais pas le jury de la scène inférieure et que l'on n'est sûr de rien, après tout. Entre nous... « Il vaudrait mieux trouver une autre solution. »« Mais je ne la tuerai pas, » dit Thérèse, « parce qu'il ne me le pardonnerait jamais. Il m'aime encore un peu. Je veux pas qu'il me haïsse. »« Alors ?» questionna Ivana de plus en plus sombre. Alors, je veille, soupira la malheureuse femme. Et elle nous quitta, s'accrochant aux meubles. Ivana courut derrière elle, et nous les entendîmes bientôt toutes les deux, qui pleuraient ensemble. Rouletabille et moi descendîmes dans le jardin. Nous regardâmes les fenêtres ouvertes du bureau dans lequel personne n'entrait plus. « La pauvre femme, » dit Rouletabille, « on ne peut pourtant pas la laisser. J'ai pourtant bien envie de ficher le camp. Oh, eh bien, et moi ? Oh, toi, non, je te défends de partir sans nous. » Ivana vint nous rejoindre. Elle s'essuyait les yeux. « Mais c'est affreux, » dit-elle. « Roland est perdu. Vous saviez ce que Thérèse me raconte ? Elle est arrivée à soudoyer la femme de ménage de la villa de Sainte-Adresse. Cette femme qui va à la villa chaque matin pour y accomplir une besogne sommaire, qui consiste surtout à donner de l'air, à ouvrir les fenêtres et à les refermer pour l'après-midi, moment de la journée où elle ne doit jamais paraître à la villa, cette femme, veuve d'un maître d'équipage, qui sait ce que c'est que l'opium, a dit à Thérèse qu'il s'en faisait là-bas une orgie, et qu'un matin elle avait trouvé la Théodora comme morte sur les coussins à côté de sa fumerie, et qu'autour d'elle il y avait un désordre indescriptible, attestant une lutte. Sans doute avait-elle tenté de retenir Roland malgré lui. Thérèse calcule que cela devait coïncider avec le soir où Roland est rentré avec une figure d'outre-tombe. Nous ne l'avons pas vu, nous autres, où il s'est enfermé tout de suite dans sa chambre. Le lendemain matin, le valet l'a trouvé sur son lit, tout habillé. Voilà les détails que la malheureuse nous avait cachés jusqu'alors. Ah, pour moi et pour Thérèse, Roland se défend encore au bord de l'abîme où l'autre veut l'entraîner. Et Thérèse m'a encore avoué des choses qu'elle avait honte d'étaler devant toi et devant Sinclair. Toute sa misère. Elle s'est jetée encore une fois aux genoux de Roland, mais cette fois l'autre l'a balayée en lui disant de ne pas se mêler de ça. Que ça passerait, mais qu'il ne fallait pas se mêler de ça. Il aurait été très très dur, paraît-il. Ah, et elle pense que cet homme l'aime encore un peu, interrompis-je. Mais c'est ce que je lui ai dit, et elle m'a répondu, mais s'il ne m'aimait plus du tout, il serait déjà parti avec elle. C'est pour moi qu'il lutte encore, pauvre Roland. Textuel, oui, je n'invente rien, termina Ivana. Est-ce qu'il l'a jamais aimé ? Questionnai-je. Oui, répondit Ivana, comme on aime un ange. Avec un tempérament comme le sien, Roland a dû se lasser vite. Mais il y a peut-être de sa faute à elle dans tout ça, repris-je. Elle se le demande, elle s'accuse, elle fait pitié. Rouletabille, qui n'avait encore rien dit, demanda « Et quand est-elle allée se jeter à ses genoux ?»« La nuit dernière, nous étions encore au casino. » « Ah non, nous venions de rentrer, » fit-il. « Tu étais déjà monté dans ta chambre. »« Sinclair et moi, nous finissions de fumer un cigare dans le jardin. »« Puis nous nous sommes séparés pour regagner chacun notre appartement. »« Et au coin du couloir, je vis passer comme une folle Madame Boulanger, »« qui sortait de la chambre de son mari et qui rentrait dans la sienne. » « Elle était dans un grand désordre, les cheveux sur le dos, la gorge découverte, » et dans un déshabillé magnifique. Oui, oh, eh bien, il venait de la mettre à la porte. La pauvre femme, fis-je, elle s'était faite belle. Avez-vous remarqué que depuis quelques jours, Thérèse se parfume d'une façon extravagante ? C'est touchant, dit Rouletabille. Mais comment se fait-il, demanda Ivana à Rouletabille, qu'en rentrant chez moi, tu ne m'aies point parlé de cette rencontre avec Thérèse dans le couloir ? Parce que, entendant toute la journée parler de cette histoire, je suis trop heureux quand je pénètre chez moi d'oublier Thérèse et Théodora Luigi et même Roland Boulanger. Ceci avait été dit d'un ton si net que nous restâmes un instant interdits, Ivana et moi. C'est un reproche, releva Ivana d'une voix calme mais un peu tremblante. Mon Dieu, fit-elle en nous quittant, que les hommes sont égoïstes et méchants. Rouletabille voulut la rappeler, mais elle secoua la tête et continua tranquillement de s'éloigner. « Non, non, fit-elle, encore. Allez, j'ai compris. » Les événements se précipitèrent. Un jour, Thérèse nous apprit que le prince était sorti de son hôtel avec son secrétaire et qu'il avait fait une promenade en voiture du côté de Sainte-Adresse, mais on avait dû le rentrer presque aussitôt chez lui car il était tout défaillant. Théodora Luigi, en rentrant à Frascati, l'avait vivement réprimandé de cette incartade. Les médecins s'étaient joints à elle. Il avait promis d'être plus raisonnable. Cela ne fait pas de doute qu'il les cherche, cette promenade du côté de Sainte-Adresse. Il doit être enseigné, nous dit-elle. Nous allons assister à quelque chose d'affreux. Et elle se prit la tête dans les mains. « Mais il faudrait prévenir Roland, dis-je. »« Sinclair, je compte sur vous. » Elle n'osait plus rien demander à Rouletabille, et depuis la petite scène de l'autre jour, Ivana, de son côté, s'était comme enfermée en elle-même, nous laissant dire, se mêlant peu à nos propos. « Prévenez-le, » continua Thérèse, « moi, je ne le puis. » sans avouer que je les espionne, ce qui le mettrait en fureur. Le soir même, j'eus une courte entrevue avec Roland. Je pris toutes les précautions possibles en abordant un pareil sujet. Il sourit, me remercia et me demanda comment je connaissais tous ces détails. Je lui répondis que l'on s'occupait du prince et de Théodora Luigi au casino, et que j'avais surpris des propos. « C'est ma femme qui vous a renseigné, » me dit-il en accusant son sourire. « Je sais qu'elle nous fait surveiller. » »« Vous ne lui en voudrez pas, elle vit dans la terreur d'une catastrophe. »« Bonne Thérèse, » dit-il, « rassurez-la et dites-lui que ses tourments vont prendre fin. » Je le lui ai déjà dit plusieurs fois, mais elle ne veut pas me croire. Le prince va mieux, j'en suis enchanté, oui, je serais heureux de les voir partir tous les deux. Et ce sera bientôt. Vous me permettez de répéter tout cela à votre femme ? Oh, elle sera si heureuse. Mais comment donc elle ne vous croira pas ? Elle est têtue comme une mule, ma bonne Thérèse. « Mais elle ne vit que pour vous, dis-je. Soyez prudent. S'il vous arrivait quelque malheur, elle en mourrait. »« Bien, je suis persuadé, dit-il. Je vous promets d'être prudent. Et pour elle, et pour moi. Diantre, je tiens encore à la vie. » Il avait raison. Madame Boulanger eut un triste sourire quand je lui répétais les paroles de Roland. Elle ne croyait plus en ses promesses. Tout de même, elle put constater le lendemain que Roland fut assez prudent pour ne pas retourner au Havre. Il resta presque toute la journée avec nous et se montra gai comme les premiers jours. Il taquina Ivana, qui fut assez maussade, ce qui parut le surprendre outre mesure. « Nous ne sommes plus amis ?» demanda-t-il. « Je vous répondrai quand nous nous remettrons au travail, » lui dit-elle. Eh bien, faisons la paix tout de suite, car nous travaillerons dès demain matin pour une bonne promenade à cheval suivant le programme. Ça vous va ? Si ça pouvait être vrai, s'écria Ivana dont les joues s'étaient empourprées. Quant à Thérèse, elle avait la fièvre. L'événement la surprenait tellement qu'elle en paraissait comme anéantie. Cependant, son inquiétude, de temps à autre, reprenait visiblement le dessus. Quand nous fûmes seuls, je lui adressai quelques paroles, mais elle ne parut pas m'entendre. Tantôt, elle nous montrait une figure illuminée, et tantôt, elle paraissait céder à un accablement nouveau. La pauvre femme ne pouvait croire entièrement à tant de bonheur, et par instant, son regard, qui était loin de nous, semblait entrevoir des choses bien sombres. Nous pûmes craindre ce jour-là quelque peu pour sa raison. C'est du moins l'effet qu'elle nous produisit, et je vois encore Ivana prendre dans les siennes ses mains brûlantes et lui tenir des propos pleins d'espoir. Le lendemain matin, Roland fit la promenade à cheval annoncée. Cette fois, Rouletabille s'était mis de la partie. Cette détermination me plut. De toute évidence, mon ami n'était pas d'humeur à se prêter à une nouvelle édition des expériences passées. Quand ils revinrent tous trois à la villa, un jeune matelot qui portait à son béret le nom de l'Astarté joignit Roland Boulanger au moment où celui-ci descendait de cheval, lui remit un pli sous enveloppe. Roland décacheta avec une main fébrile et lut. Ce ne fut pas long. Il mit le papier dans sa poche, cria au palefrenier de sauter sur l'un de nos chevaux et de le suivre. Quant à lui, il était de nouveau en selle et sans nous avoir dit un mot, il repartait à fond de train. Le matelot courait derrière lui dans la direction du port. Rouletabille, Ivana et moi-même, qui venaient de descendre les degrés de la villa, restâmes un instant à nous regarder. Puis, levant les yeux vers la fenêtre de la chambre de Thérèse, nous aperçûmes, sous un rideau soulevé, une figure de spectre. La pauvre Thérèse était effrayante à voir. Le rideau tomba. « C'est elle qui avait raison, fis-je. Nous ne pouvions douter en effet que sur un mot de Théodora, Roland ne fût allé la rejoindre, et avec quelle rapidité! Nous n'en doutions pas, car nous savions que c'était par le truchement de la chaloupe automobile de l'Astarté, yaque entrée au Havre, que Roland se rendait à sainte adresse presque tous les jours et en revenait. » Nous étions encore à notre place, en proie à notre saisissement, quand Thérèse parut sur le perron. Elle avait cette figure sèchement dramatique dans la douleur que Guido Reni a donnée à sa mater Dolorosa, avec cette bouche entrouverte qui n'a plus de sanglots et ses yeux glacés qui n'ont plus de larmes. Elle ne nous dit rien et nous ne savions que lui dire. Elle s'était enveloppée d'un manteau sombre et coiffée d'une toque. Évidemment, elle allait là-bas reprendre sa veille. Elle se dirigea vers le garage et demanda l'auto. Elle nous étonna par sa démarche assurée, cette femme qui venait de nous montrer une figure à l'agonie. Elle revint vers nous, elle était calme, elle dit encore tout haut, « Oh, je ne suis pas pressée, j'ai le temps, je ne dispose pas de chaloupe automobile, je prends le bateau comme tout le monde. » Elle ouvrit son sac et en tira une de ces petites cartons où sont inscrites les heures de marée et qui indiquent l'horaire des départs des bateaux. « Oh, c'est bien cela, j'ai 20 minutes. » L'auto venait se ranger devant nous. Elle y monta après nous avoir fait un signe. Ivana courut l'embrasser et nous l'entendîmes qui lui demandait si elle voulait bien qu'elle l'accompagnât. Mais Thérèse la remercia assez sèchement et referma la portière. Quand l'auto fut parti, « Mais c'est un crime !» jeta Ivana, « que de la laisser s'en aller ainsi. Elle est froide comme un marbre. La vie va lui manquer tout d'un coup. Son cœur va s'arrêter. Voilà l'effet qu'elle me fait. Mais tout ceci est horrible. » Horrible, oui, répéta Rouletabille, mais il est suffisamment démontré que nous n'y pouvons rien. Il ne va pas aller espionner avec elle, peut-être, écouter aux portes, compter les minutes d'amour de ces deux déséquilibrés. Plaignons-la, c'est tout ce que nous pouvons faire. Oh oui, je la plains de tout mon cœur. Voilà ce que c'est que d'épouser un homme de génie, grogna Rouletabille, qui dans le moment me parut odieux. Ivana tourna sur lui des yeux sombres et pleins de larmes. « Oh, Zoe, tu oublies tout ce que j'ai souffert pour toi ?» Il eut les yeux humides à son tour, et je murmurai en les prenant tous les deux par un bras, « Mais peut-on se déchirer ainsi quand on s'aime ?» Sinclair est celui qui a le plus ouvert de nous tous, et c'est encore lui qui est resté le meilleur, dit Rouletabille. Oh, moi, fille, je ne compte pas un pauvre petit divorce bien banal. Oui, toi, si tu as pleuré, il n'y a que ton papier timbré qui l'a su. Tu es plus grand que nous tous, Sinclair. Allez, allons déjeuner en Normandie. Le déjeuner ne fut pas folâtre comme bien on le pense. Ivana était inquiète et répétait « Oh, je n'aurais pas dû la laisser partir seule !» Ce qui continuait à horripiler Rouletabille. Au dessert, nous ne pûmes éviter le petit ramel de Dramatica qui passait entre les tables, serrant les mains, recueillant les potins. « Comment va la tuberculose des poules ?» nous demanda-t-il. Je pus croire que Rouletabille allait lui flanquer des gifles. Mais l'autre continua, sans les attendre. « Ah, vous savez la dernière nouvelle ? Le prince Henri devient fou. On va peut-être être obligé de l'enfermer. En tout cas, il nous quitte, ou plutôt sa Théodora l'emmène, on ne sait où. Le départ est commandé pour demain à Frascati. » Là-dessus, il nous quitta. « Ah, mais tout devient clair, fis-je. Et il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler, au contraire. Roland a reçu de Théodora ce matin la nouvelle de son brusque départ. Il est allé lui dire un dernier adieu. »« C'est bien possible, » exprima Rouletabille avec indifférence. Après déjeuner, Ivana, qui avait à peine prononcé quelques paroles en dehors de son refrain, « Je n'aurais pas dû la laisser partir seule. » Nous quitta sous je ne sais quel prétexte. Nous allâmes, Rouletabille et moi, faire un tour dans la campagne, d'où nous revînmes vers les 5 heures. En passant devant la potinière, nous fûmes surpris de l'agitation qui y régnait. Aussitôt qu'on nous aperçut, plusieurs personnes se levèrent et nous entourèrent. On nous croyait au courant de l'affreux événement et nous eûmes quelque mal à démêler tout de suite les faits qui provoquaient une telle émotion. La nouvelle du drame était arrivée par un coup de téléphone adressé du Havre au comte de Mornac et voici ce que nous apprîmes. Le prince Henri II d'Albanie, après avoir essayé d'atteindre Roland Boulanger et Théodora Luigi, enfermé dans une villa de Sainte-Adresse, avait abattu à coups de revolver Madame Boulanger, qui se trouvait non loin de là, et qui, l'ayant aperçu, s'était précipité pour lui barrer le chemin. Après quoi, Il était allé se jeter du haut de la falaise. On venait de rapporter son corps dans une dépendance de l'hôtel Frascati. Madame Boulanger était-elle morte ou vivante? Voilà ce que l'on ne put nous dire. Je vous fais grâce de tous les commentaires dont on accompagnait cette tragédie et de toutes les folies qui se débitaient autour des tables. Nous avions encore un bateau pour nous rendre au Havre, le dernier de la journée, mais il fallait nous presser. Nous nous jetâmes dans une voiture et c'est tout juste si nous ne le manquâmes point. Nous n'avions pris que le temps de faire prévenir Ivana des événements et de notre départ par un ami des boulangers qui se trouvait là. Quel coup pour Ivana, me fit Rouletabille, qui ne pouvait retenir ses larmes. C'est inouï, exprima-t-il, ce que nous sommes peu de choses auprès des femmes. Elles sentent, elles devinent, elles touchent avec leur merveilleux instinct la forme des minutes à venir qui reste obscure pour les plus forts et les plus malins d'entre nous. L'agitation d'Ivana nous paraissait anormale, presque ridicule. Elle voyait déjà ce que venons d'apprendre et ce qui n'était pas encore, pour notre misérable intelligence de mathématicien, qui enferme tout dans des formules sans issue, qu'une image future, c'est-à-dire rien, moins que rien, une idée de femme. Sur le bateau, nous nous trouvâmes avec le petit Ramel de Dramatica, qui allait au Havre dans le dessein tout naturel d'y trouver les éléments d'un sensationnel reportage. Il nous dit que ce drame ne surprenait personne, mais qu'aucun personnage n'y était plus préparé que la victime elle-même. Et il nous confia que, quelques minutes auparavant, à la Potinière, quand l'affaire avait éclaté, le comte de Mornac lui avait donné à lire une lettre qu'il venait de recevoir de Paris de sa vieille amie Madame de Lens, qui était une intime de Thérèse et à laquelle cette dernière avait écrit l'avant-veille qu'elle s'attendait à tout et à quelque chose de pire encore. Madame de Lens écrivait au comte qu'elle ne pouvait lui en dire davantage dans une lettre et que, du reste, elle espérait bien que Thérèse se trompait et que ses horribles pronostics ne seraient point réalisés. Je m'attachais, quant à moi, à aucune importance à cette conversation avec le petit Ramel, mais on verra plus tard que Rouletabille ne l'avait pas oublié. Au Havre, Ramel ne voulait pas nous lâcher, et mon ami dut lui faire comprendre qu'en ce qui le concernait, lui, Rouletabille, il n'était conduit sur les lieux que par son amitié pour les boulangers de qui il était l'hôte, en raison de quoi il serait obligé à Ramel de mener son enquête journalistique tout à fait en dehors de lui. Nous eûmes la chance de trouver une auto et, semant le Ramel, nous nous fîmes conduire en grande vitesse à Sainte-Adresse. Nous dûmes descendre avant la villa Fleurie, c'était le nom de cette fatale demeure, à cause du service d'ordre. Il y avait là beaucoup de monde. Nous nous trouvions tout à fait à l'extrémité de Sainte-Adresse, sur le haut de la falaise, devant une maisonnette basse, tout en rez-de-chaussée, qui était habitée, enfin nous apprîmes ces détails quelques instants plus tard, par la femme de ménage de la villa dont Thérèse avait parlé à Ivana. Cette femme cachait Thérèse chez elle quand la malheureuse venait au Havre. De là, celle-ci pouvait surveiller la villa Fleurie dont nous apercevions le visage de bois, les fenêtres closes. Quelles heures Madame Boulanger avait dû passer derrière les petits rideaux blancs de cette maisonnette de matelots, en face de ces murs, derrière lesquels il y avait de la volupté et de la mort. Mais nous fendions la foule. Rouletabille eut la chance de tomber sur un inspecteur de la Sûreté de Paris, M. Tamar, qui le reconnut et facilita notre passage. Dans le moment, nous ne nous trouvons étonnamment point de retrouver déjà sur les lieux un représentant de la police de Paris. Du reste, il me semblait bien avoir déjà vu cette figure au casino de Deauville, le soir où Teodora Luigi avait fait son apparition avec le prince Henri. Encore un détail qui devait avoir plus tard son importance, mais vous pensez bien qu'alors, nous n'avions qu'une hâte, qu'un désir, qu'une angoisse, savoir si Thérèse était encore vivante et si cet homme n'en savait pas plus long que nous à ce sujet. Il revenait de l'hôtel Frascati où il s'était occupé de faire porter le corps du prince. Nous pénétrâmes dans la villa avec lui, et la première personne que nous aperçûmes, traversant un corridor, fut Ivana. Aussitôt qu'elle nous vit, elle s'arrêta. Sa figure était bien belle dans sa douleur. Elle prononça d'une voix basse, déchirée, « Eh bien, mes pauvres amis, mais qu'est-ce que je vous avais dit ?»« Mais est-elle morte, est-elle vivante ?»« Non, elle vit et Roland la sauvera. Nous pouvons maintenant en avoir le ferme espoir. »« Ah, Dieu soit loué, soupirai-je, peut-on la voir ?» « Je crois qu'elle sera très heureuse de vous voir. Elle s'est inquiétée de vous. Vous entrerez et sortirez presque aussitôt. Hein. Ne la faites pas parler. »« Un instant, » dit Rouletabille. « Où ? Quand ? Comment ? A-t-elle été frappée ? Quelle blessure ? » ?»« Ben, voyons-la d'abord, » déclarai-je avec un peu d'impatience. « Non, nous la verrons ensuite, » répliqua Rouletabille. Très froid et très calme. Ivana connaissait son Rouletabille, elle savait qu'il fallait en passer quand il prenait ce ton par où il voulait. Elle a été frappée par deux balles, commença-t-elle. La première, entrée à la hauteur du cœur, a rencontré heureusement le sternum sur lequel elle a glissé et elle est sortie en remontant à la hauteur de la clavicule. La seconde a pénétré dans la poitrine au-dessus du foie, mais Roland croit pouvoir affirmer qu'aucun organe important n'a été lésé. Il a procédé à l'extraction de la balle. Thérèse a subi avec un grand courage l'opération qui s'est achevée sans complication. Vous voyez que rien n'est perdu. Maintenant, voilà ce que l'on sait du crime. Rouletabille l'interrompit et lui dit brusquement « Tu as pris le battre de 3 heures ?
Oui, ne m'en veux pas. J'étais sûr que c'était pour aujourd'hui. Un pressentiment qui a été plus fort que tout. Je ne vous ai rien dit quand je vous ai quitté, mais j'étais résolu à venir au Havre cet après-midi. Hélas, quand je suis arrivé, il était trop tard.
Mais trop tard pour quoi ? Interrogea Rouletabille, blême.
Mais pour me jeter entre la malheureuse et cette brute.
Ben, il vous aurait abattu toutes les deux, et je bénis le ciel que tu sois arrivé trop tard, Ivana.
Mais que ne l'ai-je accompagné ce matin, reprit la jeune femme, sans s'arrêter à ce que lui disait Rouletabille,
et tout à fait indifférente à la pensée qu'il exprimait, qu'elle aurait pu être victime elle aussi.
Mais comment es-tu venu ici tout de suite ? Tu connaissais donc l'endroit ?
Oh, il n'était pas difficile à trouver après tout ce que m'en avait dit Thérèse. Et puis, ajouta-t-elle, après une seconde d'hésitation, je puis bien te l'avouer maintenant qu'une fois, sans rien dire à qui que ce soit, pas même à Thérèse, je suis venu en me cachant jusqu'à la maison d'en face.
Tu as fait cela, toi ? C'est assez singulier, émit Rouletabille d'une voix sourde.
Ben, tu as bien fait de ne pas m'en parler, je t'aurais sérieusement blâmé.
Elle regarda Rouletabille, puis nous poussa dans une petite pièce qui prenait jour sur une cour intérieure. Quand elle en eut fermé la porte,
évidemment, ce n'était pas ma place.
Mais Thérèse m'effrayait de plus en plus. J'avais entendu dire des choses du prince Henri qui m'épouvantaient.
Tu voulais sauver Roland, toi aussi.
Peut-être. Mais je crois bien que c'est la pensée du malheur de Thérèse qui m'a surtout guidée alors, répliqua-t-elle sur un ton d'une tristesse infinie. Je voulais avoir un entretien avec cette femme de marin que je croyais au courant de tout. Elle allait peut-être m'apprendre des choses qui eussent pu être utiles à tout le monde, mais je n'ai rien pu en tirer. Et si elle sait quelque chose, Thérèse doit la payer cher. Et puis cette femme dit sans doute la vérité. Elle fait des ménages en ville et rarement chez elle. Thérèse avait une clé et entrait dans cette maison, en sortait comme elle voulait. Au fait, cette personne, Madame Merlin, était absente au moment du drame et n'a pu donner aucun renseignement.
Mais comment connais-tu les détails du drame?
Mais par Roland, qui m'a tout raconté, et par un témoin, un agent de la police locale, qui se trouvait sur les lieux. Enfin, Thérèse a pu prononcer quelques paroles qui nous ont fixés définitivement. Roland m'a dit qu'il se trouvait dans une pièce du rez-de-chaussée avec Teodora Luigi quand ils avaient entendu des cris au dehors. D'abord, il n'avait pas reconnu la voix de sa femme. Et puis une clameur distincte et toute proche. « À l'assassin, Roland, Roland !» Cette fois, il avait reconnu la voix de sa Thérèse. Il ne s'étonna point qu'elle l'eût suivi jusqu'ici, car il connaissait ses transes et savait ce qu'elle était capable de faire pour le sauver. D'autre part, comme Théodora venait de lui avouer que le valet de chambre du prince n'avait point trouvé son maître le matin même dans sa chambre, et que l'on savait ce qu'il était devenu, il ne douta point que sa femme ne fût aux prises avec ce fou. Théodora non plus n'en douta point, mais cette même pensée qu'ils avaient tous deux se traduisait chez l'un et chez l'autre par des gestes différents. Roland se précipitait sur la porte du vestibule, mais Théodora le retenait de toutes ses forces. Cependant, l'ayant secoué brutalement, il ouvrit et ils se trouvèrent en face du corps de Thérèse, étendu en travers du seuil. « La malheureuse, elle leur a donné sa vie !» m'écriai-je. « C'est une femme qui sait aimer !» s'exprima Ivana d'une voix profonde. « Moi, je ne saurais pas. J'aurais pris la vie de quelqu'un, je n'aurais pas donné la mienne. » Roland a juré de la sauver et de vivre à genoux devant elle. « Oh, il le peut !»«
Parle-moi de l'argent, de l'agent, » commanda Rouletabille, qui n'aimait point les digressions sentimentales.
Il s'en est fallu de quelques secondes qu'il sauva Thérèse de ce fou. Quand Roland ouvrit la porte, un agent bourgeois de la police locale, nommé Michel, était déjà pensé sur Thérèse. Cet agent veillait sur la villa. Il avait été requis et était payé par Théodora, qui en était arrivé à tout craindre du prince, mais ne voulait point s'en aller sans avoir revu Roland. Roland m'a confié que la passion de cette femme pour lui avait augmenté, en raison même de ce que la sienne diminuait, car elle s'était aperçue de sa lassitude. En effet, Roland en avait assez. Et c'est seulement la crainte qu'elle ne se livrât à quelque acte de désespoir si elle ne le voyait pas venir au dernier rendez-vous qu'elle lui fixait avant son départ, qui fit que Roland nous a quittés ce matin si précipitamment.
« Il te l'a dit, » souligna Rouletabille, « mais c'est un autre ordre d'idées. Revenons à l'agent. Ce Michel n'a donc pas vu arriver le prince ?»«
Malheureusement, non. Mais c'est tout naturel. L'agent faisait le tour de la villa. » qui est isolée, comme vous avez pu vous en rendre compte. C'est pendant que l'agent était derrière la villa que le prince aurait surgi d'un gros bouquet d'ajoncs à 200 pas d'ici, sur la gauche. Le prince devait être sûr que Théodora et Roland se trouvaient dans la villa. On avait dû l'en avertir, et il accourait pour les surprendre, après avoir attendu sans doute que l'agent eût disparu. Il est à présumer qu'on lui avait procuré quelques moyens de pénétrer dans la villa. Peut-être obéissait-il simplement dans son état de fièvre à un mouvement spontané qui le jetait contre ces murs qui cachaient les amours de sa maîtresse. Ce qu'il y a de certain, hélas, c'est qu'un affreux besoin de massacre l'agitait. Le malheur voulut que Thérèse, qui venait d'arriver, eut vu le prince sortir de ses ajoncs et courir à la villa. Elle se jeta au-devant de lui, s'accrocha à lui, poussa des cris, et l'autre, fou de rage, a tiré. Vous pensez bien que Thérèse ne s'est même pas défendue. Il faut la connaître. Elle a dû goûter une joie surhumaine à être frappée ainsi. Et si elle a crié, ce n'était point pour elle, soyez assurés, mais pour avertir Roland du danger qu'il courait. « Quelle tragédie !» murmurai-je. « Après ?» fit Rouletabille, premier coup de revolver, continua Ivana. L'agent s'est précipité. Il allait tourner l'angle de la maison sur la façade quand le second coup retentit. Car il y a eu un certain temps entre le premier et le second coup. Et l'agent arriva juste pour voir Thérèse s'écrouler contre la porte. Pendant ce temps, le prince, après avoir abattu Thérèse, et se rendant compte sans doute de l'horreur de son acte, jetait son revolver. Et qui l'a ramassé, ce revolver ? L'agent. Et comment est-il, ce revolver ? C'est une solide petite arme de poche de modèle courant. Et le prince, après l'avoir jeté, s'enfuit en contournant l'angle de la villa, non pour se cacher, vraisemblablement, mais pour arriver plus vite à la fin de ses tourments, au suicide du haut de la falaise. Quant à l'agent, n'ayant pas vu le meurtrier, il ne s'est occupé d'abord que de cette femme ensanglantée qui lui tombait presque dans les bras. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit et que Roland et Théodora apparurent. Vous voyez la scène ? Roland fut d'abord comme fou. Cependant, quand il eut constaté que sa femme respirait encore, il reconquit tout son sang-froid, la transporta lui-même sur un divan, ordonna à Théodora, qu'il regardait agir comme dans un rêve, de quitter cette maison et de n'y plus revenir tant qu'il serait là. Et par qui a été louée la villa ? Mais par elle. Alors il l'a chassée donc de chez elle. Mon Dieu, oui, et elle ne fit aucune objection. Elle dit simplement, « Vous me permettrez peut-être de vous envoyer un chirurgien avec sa trousse ?» Il lui répondit que l'agent se chargeait de cela. Et il la laissa partir sans un adieu. « Qu'est-ce que ça peut nous faire ?» exprima Rouletabille. « Mais dis-moi, quand tu es arrivé, toi, où en étaient les choses ?» Ben, il y avait déjà beaucoup de monde autour de la villa. Je me suis douté que mon pressentiment ne m'avait pas menti. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Tes angoisses, je les connais. En somme, quand tu es arrivé, tout était terminé ? Oui, répondit Ivana d'une voix dure, l'assassinat et l'opération. Bien. Pourquoi bien ? Parce que c'est net. Tu es en dehors du drame et en dehors de l'intervention chirurgicale. De toute façon, si la malheureuse succombe, on n'aura rien à te dire. Mais toi, que veux-tu dire ? Rien, donc, exprimer ma satisfaction que tu ne sois mêlé en rien à une affaire aussi embrouillée. Embrouillé ? Pour le vin Ivaname, il n'y en a jamais eu d'aussi clair. Dame, fis-je, Rouletabille haussa les épaules. Enfin, en arrivant, tu as vu Thérèse ? Non, elle reposait après le dernier pansement. On lui avait fait une piqûre. Alors, tu as vu Roland ? Évidemment. Comme on peut voir la statue du désespoir ou du remords. D'abord, je n'ai pas pu lui tirer un mot, puis peu à peu, j'ai tout appris. À la fin, il pleurait comme un enfant. Il m'a dit de bien belles choses sur Thérèse. Et l'enquête ? Eh bien, l'enquête. Naturellement, la villa est envahie par les commissaires, les magistrats. Il y en avait partout, qui fouillaient partout. Ils avaient apporté avec eux la nouvelle du suicide du prince Henri. « Je le regrette, avait dit Roland, car j'aurais voulu le tuer de ma main. » « Oh, tant que possible, point de scandale, avait répondu le commissaire central. Tout le monde aura à y gagner. » Le drame, quoi que tu en dises, continua Ivana, paraissait tellement simple que l'enquête la plus sommaire pourrait dès lors le résumer. Elle fut encore plus rapide qu'on ne pouvait l'espérer, et c'est tout juste si le commissaire central posa dans le particulier, si l'on peut dire, deux ou trois questions à Thérèse, qui avait retrouvé sa pleine connaissance et qui confirma qu'elle s'était trouvée en présence d'Henri II. « Il était fou, a-t-elle dit, je ne lui en veux pas. » À la suite de quoi, le commissaire eut une longue conversation avec Roland, et je crois bien que l'on est en train de s'entendre pour bâtir de toutes pièces un accident. Ces messieurs de la police et du parquet, qui sont enfermés en ce moment dans une pièce du premier étage, y travaillent. Oh, c'est à souhaiter qu'ils réussissent, même pour les boulangers.
Surtout pour les boulangers, appuya Rouletabille.
« Pouvons-nous voir Thérèse ?» demanda-t-il enfin. Ivana nous quitta quelques minutes, puis revint nous chercher et nous fûmes introduits auprès de Madame Boulanger. Je vous avoue que j'attendais ce moment avec la plus grande impatience qui se doublait de la plus profonde angoisse. Depuis près d'une demi-heure, malgré tout l'intérêt du récit d'Ivana, je brûlais de me retrouver en face de cette grande figure de martyr auprès de laquelle je voyais tous les autres et moi-même si petits. Mais il en était ce jour-là avec Rouletabille, comme toujours. Il fallait attendre qu'il eût fini de mettre à leur place, dans sa tête, une série de petits détails insignifiants en apparence, avant qu'on eût le droit de reporter son attention sur des objets capitaux. Que de fois avait-il ainsi excité notre impatience, dont il n'avait cure. Cependant, c'était ce système qui lui permettait de se présenter devant les auteurs principaux du drame avec des armes que nul ne lui soupçonnait, et de remporter sur le mensonge de certains ou sur la niaiserie générale des victoires sensationnelles. Je savais tout cela. Et que ce n'était pas une vaine curiosité qui lui faisait souvent poser des questions qu'à première vue on pouvait juger oiseuses. Mais dans cette affaire, qui apparaissait claire comme le jour, j'imaginais facilement que mon ami, en continuant d'agir comme pour toutes les autres, était victime de sa propre routine, et j'avoue qu'il se diminuait à mes yeux, d'autant plus que ces questions dont il pressait Ivana paraissait avoir pour point de départ, peut-être sans qu'il s'en doutât d'ailleurs, un sentiment de jalousie que je jugeais bien intempestif. Enfin, nous pénétrons dans la pièce où Roland veillait cette femme à laquelle il avait tant fait de mal et qui venait de lui donner son sang. C'est un spectacle que je n'oublierai jamais. La pauvre femme, allongée sur un drap, que l'on avait jeté sur un divan, était enveloppée jusqu'au cou dans un grand peignoir blanc et assurément elle était plus blanche que son pays noir. À genoux devant elle et retenant sa main dans les siennes, Roland Boulanger pleurait. Thérèse tourna vers nous des yeux admirablement vivants et que semblait habiter une espérance céleste. Malgré la défense qui lui était faite de parler, elle nous dit dans un souffle « Pourquoi pleure-t-il? C'est le plus beau jour de ma vie !» Nous ne pûmes retenir nos larmes et sur un signe de Roland, nous sortîmes. 2 heures plus tard, alors que nous nous trouvions chez Tortoni, où Rouletabille et moi nous avions retenu des chambres, l'inspecteur de la sûreté que nous avions trouvé à notre arrivée à Sainte-Adresse, M. Tamar, vint chercher Rouletabille de la part du commissaire central. Voici ce qui se passa au commissariat. Les reporters locaux s'y trouvaient déjà réunis, et Rouletabille y vit aussi le petit Ramel de Dramatica. Le commissaire fit d'abord à ces messieurs de la presse une communication qui pourrait à peu près se résumer en ces termes. « Messieurs, deux événements regrettables se sont produits aujourd'hui qui ont donné naissance au bruit des plus fantaisistes. D'une part, le prince Henri II d'Albanie, dans un accès de fièvre chaude, s'est jeté du haut de la falaise de Sainte-Adresse, et d'autre part, un accident survenu vers la même heure sur les hauteurs de cette adresse a profondément affligé une honorable famille, celle du célèbre professeur Roland Boulanger. Monsieur et Madame Boulanger visitaient les villas à louer sur la prière d'une amie de Paris qui avait dessein de venir passer le mois de septembre sur l'une de nos plages, j'ai nommé Madame de Lens. Vous voyez que je cite mes auteurs. Le malheur voulut que dans l'un de ses chalets, la Villa Fleurie, Madame Boulanger trouva sur un meuble un revolver qu'on y avait oublié. Elle voulut se rendre compte de son fonctionnement, savoir s'il était chargé ou non, et il arriva, ce qui arrive trop souvent quand les armes à feu se trouvent entre des mains inexpérimentées, le revolver partit et Madame Boulanger a été blessée. Heureusement, si grave qu'ait été sa blessure. « Ses blessures ! » interrompit très hostilement le petit Ramel. « Oui, ses blessures, car en effet, sous la pression nerveuse inconsidérée et machinale de la victime affolée de son imprudence, la gâchette agit 2 fois, » concéda le commissaire. Enfin, le principal est que Madame Boulanger ne succombera point à ses blessures. Son mari même répond d'une prompte guérison. Déjà, ce soir, son état est à ce point satisfaisant que Madame Boulanger a pu nous donner tous les détails de l'accident. Je vous ai réunis ici, messieurs, qui représentaient la presse, parce que je compte sur vous pour établir la vérité des faits qui a été dénaturée par de méchants propos de stupides racontards. La malheureuse coïncidence de ces 2 événements a été purement fortuite, et cela vous le direz. Vous devez la vérité à Madame Boulanger qui nous la demande par ma bouche, et vous la devez aussi à la famille d'Albanie qui entretient avec la France, vous n'oublierez pas, messieurs, les relations les plus amicales. » Des murmures accueillirent, comme l'on pense bien, cette singulière déclaration, qui était si peu en rapport avec les faits les plus évidents, mais Rouletabille prit à son tour la parole. « Mes chers camarades, ce que vient de nous dire monsieur le commissaire est de tous points exact. Je puis vous l'affirmer mieux que personne, moi qui ai entendu cet après-midi Madame Boulanger elle-même, et du reste, voici l'article que je vais téléphoner à mon journal. » Là-dessus, il lut son article qui était de tout point conforme au récit des événements tel que venait de le faire le commissaire. « Et c'est un coup monté !» s'écria le petit Ramel. « Monsieur, protesta le commissaire en se tournant vers Rouletabille, je vous serais obligé de dire à vos confrères que je ne vous connais pas. » Que nous ne nous sommes jamais rencontrés, que vous n'avez reçu de moi ni des gens de mon service aucune communication préalable.
J'en donne ma parole d'honneur, répliqua Rouletabille. Les journalistes sortirent. Le petit Ramel ricanait. Tu nous prends vraiment pour des poires, dit-il à Rouletabille, et lui montra l'article qu'il avait télégraphié à Dramatica. Le lendemain, nous nous jetâmes sur Dramatica à l'arrivée du Rapide de Paris, mais l'article n'y était pas. Il n'y eut qu'une feuille de chou de la localité et un journal anarchiste de Paris pour écrire ce que tout le monde savait sur le drame de la Villa Fleurie et sur le rôle qu'y avait joué Henri II d'Albany avant de se jeter du haut de la falaise. Ce jour-là, nous vîmes arriver le chef de la sûreté lui-même. Oh, décidément, c'est une affaire d'État, dit Rouletabille, tant mieux. Oui, fis-je, le scandale en sera mieux étouffé. Et personne ne saura la vérité jamais, ajouta-t-il. Oh, personne, personne, relevai-je avec un triste sourire, personne, excepté tout le monde. Il ne me répondit point, mais je vis bien qu'il avait sa mine singulière des grands jours de mystère, quand il était seul à avoir des choses que lui montrait le bon bout de sa raison.